là encore, justement, l'intérêt, c'est qu'on est dans un genre où on peut, entre guillemets, tout se permettre. Enfin, je sais pas si l'expression est toujours très heureuse, mais quand on a justement quelque chose qui est du domaine vraiment, alors là, pour le coup, de l'imaginaire, il faut arriver à le mettre en mots. Ça aussi, c'est pas toujours, j'imagine, forcément très évident.
Il y a un premier écueil quand on écrit de la fantaisie, c'est de mettre des mots très bizarres à toutes les pages.
Avec plein de trémas et plein de consonnes.
Exactement. Et là, vous êtes sûr de tas de lecteurs à la page prime. Je pense qu'au contraire, quand on écrit de la fantaisie, faut, dans les premières pages, qu'il y ait le moins d'éléments possibles de fantaisie. On se retrouve dans un monde où on peut comprendre les enjeux assez vite. Et ensuite, une fois qu'on est pris dans l'histoire par les personnages, on peut petit à petit faire comprendre au lecteur que ce monde est quand même bizarre. Des éléments qui ne sont pas comme chez nous. Je pense qu'il faut se garder de la tentation de faire n'importe quoi d'être bizarre.
Il y a forcément un lien d'anthropomorphisme même dans ce que vous faites. Qu'on puisse au moins appeler un chat, même si c'est pas dans l'univers un chat.
Franchement, si vous appelez Schmoll un chat, on vous laisse comme vous l'appelez chat. Alors, ou alors si vous appelez Schmoll, c'est qu'il est vraiment, il a un pouvoir particulier qui sert à votre chat. Donc, on peut pas s'amuser à faire un chat. Je pense que à chaque fois que vous créez quelque chose de fantastique, un élément magique fantastique, il faut qu'il ait un véritable intérêt pour l'histoire. Pas juste parce que joli et que va faire un beau décor, même si c'est sympa aussi le décor. Il faut quand même que c'est un intérêt.
Des Giro, vous avez exploré alors à la fois, je crois, les univers, d'ailleurs le dernier livre sur la guerre de 14-18 est un roman historique. Vous avez fait l'espionnage au début, puis il y a eu la science-fiction. Vous faites une différence d'ailleurs justement entre ces genres, ou est-ce que pour vous c'est la même chose dans l'élaboration?
Non, il y a une différence. J'ai commencé par l'espionnage parce que, en l'occurrence, à l'époque, j'avais des soucis avec mon épouse. Je voyais qu'on ne gagnait pas assez d'argent, donc comme journaliste. Donc j'ai cherché ce que je pouvais faire, et puis je n'ai pas autre chose que écrire. Donc je me suis mis à écrire ce que je connaissais, c'était l'espionnage.
On était en pleine guerre froide, donc c'était ouais. D'actualité en plus.
Oui, et puis quand je portais l'uniforme pour un jeune, j'ai été amené à toucher un peu à ces choses-là. Et donc je connaissais un peu. J'ai donc fait trois romans en tant que détective. J'en ai écrit quatre. Et je me suis emmerdé. Parce que tout un espionnage, c'était un peu faible. Je mettais un peu de beaucoup d'action. Je mettais un décor un peu particulier. Vous avez un petit zeste d'amour, un petit zeste de cul, un petit zeste de. Pas encore. Jusque ça, et ça sort du sang, c'est chiant. C'est très chiant. Et j'ai découvert, à ce moment-là, j'étais au Plasma, et on recevait tous les mois une bouquin qui sortait. Donc je recevais des SF. J'ai commencé à en lire. Et j'ai lu notamment Peter Randa. Il était de bon temps à l'époque de mépriser Peter Randa. Il était bon pour le trouver que c'était un mec nul. Moi, j'ai une grande admiration pour ce livre. Il a écrit 60 fois la même histoire. 60 fois la même histoire, et on marche à chaque fois. Alors, pour moi, c'était le meilleur écrivain. J'ai découvert la SF comme ça. Je me suis rendu compte que la SF, c'était la liberté du total. On peut faire un bouquin d'amour, je sais. Un bouquin d'espionnage, un bouquin d'aventure, un bouquin de sociologie. Enfin, on peut faire. C'est la porte ouverte à tout. Donc, j'ai été captivé. Et au sein de tous les genres, tous les types de la SF, c'est l'espèce homme qui m'a pris très loin. Parce que je trouve que là aussi, il y a beaucoup de liberté. Je voulais pendant très longtemps. Je n'ai pas du tout de passion pour l'épinage, pour l'instrument de l'éducation, de radio pure. Ça ne m'amusait pas du tout. Ce qui m'amusait, c'était la communauté de l'avion. L'avion, le planeur et moi. Ça c'est ça. Et dans la testée, ça, c'est pas du tout les prouesses techniques. C'est l'homme. Je prétends, vu que c'est un radio, je prétends que les hommes sous Platon n'étaient pas différents des hommes d'aujourd'hui. Et vous avez les mêmes conceptions de l'amour, de la trahison, de la jalousie, de la fidélité. Vous avez les mêmes conceptions aujourd'hui. Et je prétends que l'homme aujourd'hui a les mêmes conceptions que célèbre conception par rapport à celle qu'aura l'homme dans son monde. Il y aura dans un monde où il y aura beaucoup plus de robots, du mouton, etc. Et ce qui se passe dans sa tête, moi je pense que ce sera toujours la même chose. Donc ce qui m'intéresse dans les bouquins, ce sont les hommes, pas les aventures. Les aventures servent à faire évoluer les mondes d'hommes. C'est l'homme en général.
Le genre
humain. Oui. C'est ça qui m'intéresse. La façon dont les hommes vivent, les rapports qu'ils ont entre eux, la façon dont ils admettent certaines choses. J'ai des analyses. Je me regarde régulièrement contre le racisme, contre l'incompréhension, contre la méfiance, contre tous les pensifs qui nous arrivent tous. C'est ça, rien de bizarre. Mais je trouve réconfortant de pouvoir écrire à propos de ce grand sujet. Dans le faire ça, il y a des bouquins historiques, genre sur les faits 2, un sur la Deuxième Guerre mondiale et puis un sur la Première Guerre mondiale. Celui que je viens de terminer. Et le point commun, c'est l'aviation. Les deux se passent pendant la guerre, dans le milieu de la guerre. Et le dernier qui paraît bon, c'est moi, c'est là. Et là, c'est pas 36. C'est beaucoup moins que. C'est un récit historique parfaitement authentique. À la date près, au jour près, tous les événements que je cite se sont réellement passés. C'est donc une série qui doit pas se pencher beaucoup sur la date. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de faire le portrait d'un livre. Beaucoup plus que le monde aéronautique, ces avions, d'autres modèles, etc. C'est le portrait d'un livre. Donc c'est là que je départ. Je ne m'arrête pas au contraire. J'ai choisi un cas particulier, quand il crée une trouille folle. J'ai plongé dans la guerre et créé une trouille folle. Et je me suis accroché à l'écriture. Comment cette trouille le prend, comment il n'y arrive jamais à la banque. Il me dit la colonne, il faut qu'il essaie de ne pas la laisser voir pour les responsabilités, pour l'avoir, pour l'imiter. C'est vraiment très bon. Même si c'est pas dans un cadre aéronautique, ce serait pas trop bon. Là encore, je pense que c'est l'été de la fin de la
série. Sylvain, il y a beaucoup de choses à dire sur ce que vous écrivez, mais puisqu'on parle d'écriture précisément, moi j'ai vu La Saveur des Filles, j'ai trouvé que c'était un roman extrêmement sensuel. Alors qu'on ne se méprenne pas, c'est de la littérature jeunesse, j'entends dire au niveau stricto-sensu sensuel, c'est-à-dire de tous les sens, il y a des odeurs, il y a des goûts, il y a des textures, il y a des choses qui se voient, etc. Ouais, ça fait vraiment fonctionner les cinq sens. Or, il faut arriver à rendre ça justement dans l'écriture, et c'est pas toujours évident. Dans La Saveur des Filles, j'ai lu il y a quelques jours, trouver des filles au moins de c'est pas très commun, je vous remercie pas, mais c'est vrai qu'on a, on a vraiment envie de retrouver justement la saveur des filles par la vie. Est-ce que voilà, ça fait partie du travail justement d'arriver à rendre ça?
Oui, c'est un travail, mais c'est surtout une gourmandise. Je pense qu'il faut être gourmand pour être sensuel, et du coup, il y a le travail de l'écriture et puis la cuisine. Faut cuisiner aussi, s'arrêter un peu d'écrire pour manger, profiter et puis se remettre à écrire et essayer de transmettre ces choses-là d'une manière qui puisse parler à tout le monde, puisque finalement, on partage tout ça. C'est quand même des choses qu'on peut facilement. On peut se dire, bon, ça c'est sûr, c'est pas un sentiment que je peux moi toute seule. Et c'est un défi qui est intéressant d'essayer de trouver le bon mot pour évoquer la sensation.
Il y a un côté Madeleine de Proust dans cette saveur des filles, mais en même temps, d'anti-Madeleine de Proust, si je peux dire, parce qu'il y a le personnage de l'arrière-grand-mère, Ménine, qui elle a goûté, a eu la chance de goûter des figues. Et elle, pour le coup, c'est la Madeleine de Proust. Et puis, il y a le personnage de Moana, son arrière-petite-fille, qui, elle, n'a jamais connu ces fruits-là, puisque donc la terre est sous la glace depuis un demi-siècle à peu près. Et donc, là, effectivement, beaucoup d'espèces ont disparu. Et elle, finalement, son moteur, c'est d'arriver un jour à pouvoir retrouver quelque part, où que ce soit, évidemment, elle va raconter toute l'histoire, mais d'arriver à retrouver des figues et d'arriver à en connaître enfin la saveur.
C'était la question moi, qui est à la base aussi de ma réflexion, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait de ça, le gouvernement, vivre interdit, passé, bien plus intéressé au passé, on doit tourner vers l'avenir. Et au contraire, Mémie et Moana, elles sont tournées vers le passé. Et en fait, Moana, elle pose cette question de dire, mais finalement, c'est pas l'un ou l'autre. Parce que c'est un peu vain ce qu'elle fait, Moana, de justement chercher ça. Elle le cherche pourquoi? Parce que elle voudrait connaître ce qu'a connu son grand-mère. Ce n'est pas son avenir, elle, parce que même si elle, peut-être elle peut trouver ce truc-là, de toute façon, le monde a changé. Donc à un moment ou à un autre, il va falloir qu'elle aussi, elle se trouve ça malgré elle. Il me semble que c'est aussi pour ça que ça continue. Moi, je suis dans le tome 3 en ce moment, et il faut que j'arrive à ça. C'est le moment où Moana, elle va trouver sa fille à elle, celle qui existe maintenant.
Mais vos lecteurs qui auront peut-être l'âge de Moana, justement, ils vont se retrouver dans cette même situation, pas pour les mêmes raisons, on va dire, mais peut-être parce que justement, ils n'auront pas eu l'occasion, alors là ce sont des filles, mais ça pourrait être autre chose, mais simplement, voilà, il y a une volonté d'éveiller la curiosité de mon lecteur.
Oui, et puis de se demander, est-ce que forcément, ce qui nous semble à nous très important à retenir, on se dit, il faut absolument que les futures générations se rappellent aussi de ça. Alors oui, évidemment, il y a des choses qu'il est important de transmettre, mais est-ce que si certaines choses ne leur sont pas connues, pour autant, ils ne pourront pas comprendre d'autres façons? Et est-ce que nous, on n'a pas à s'interroger sur la façon de leur transmettre certaines choses pour qu'ils puissent aussi, si ça n'est plus, si ça n'existe plus, trouver quand même leur propre chemin, leur propre madeleine, seule?
Et là, justement, dans le travail sur l'écriture à proprement parler, c'est-à-dire qu'il faut arriver à trouver le mot juste au bon endroit, le bon enchaînement également d'événements, comme un fil d'Ariane, finalement, arriver d'un point A à un point B.
Oui, là, il y a du travail.
Parce
que c'est vraiment ce travail de réussir à prendre la sauce, à créer ces liens. Et alors, ce qui est très difficile, je trouve, et heureusement, moi, je travaille avec la CPI, c'est de me dire, finalement, j'ai monté tout ça, compliqué, etc. J'ai des liens, des choses qui sont liées là. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que finalement, ce qui va apparaître au lecteur à la fin, ce sera pas juste des petits morceaux ou pas? Est-ce que j'ai réussi à faire la mosaïque?
Ça, c'est pas du travail, c'est du talent. Je suis émerveillé quand je l'écoute parce que je ne saurais pas faire ça. Je ne saurais pas. Vous avez une tâche qui est tellement difficile d'arriver à inventer une imagination qui va se concrétiser sur des sujets tellement apparemment ténus, enfin, à chaque fois. C'est du vrai talent, ça.
Eh bien, oui, on va y arriver tranquillement. Paul, même question, mais cette fois-ci, encore une fois, on est dans un univers totalement d'imagine. Alors, pour reprendre peut-être ce que vient de dire Silène, là aussi, il faut construire, j'imagine, un édifice. Et il faut que cet édifice tienne debout, sauf que les bases ne sont pas forcément les mêmes que ce que fait Silène avec, finalement, une matière qu'on a, nous, tous, à notre portée.
Ça, c'est la question fondamentale de la fantaisie, c'est est-ce qu'on peut faire n'importe quoi, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous passe par la tête, en fait, on sait pas trop rapidement que non, bien sûr. On peut faire beaucoup de choses, on a un champ d'idées, mais une fois qu'on sait poser ses propres bases, ses propres règles, il faut savoir les suivre. Et c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut l'imaginer au départ. Si vous dites que les chevaux avec des ailes existent, voilà, faut que vous imaginez comment, ici, pourquoi, quelle taille ils ont, qu'est-ce qu'ils doivent porter,
à quoi ça sert,
voilà comment on les a, est-ce qu'ils sont sauvages, est-ce qu'ils sont domestiques. Il y a tout un tas de questions qui se posent, donc ça demande de la documentation.
C'est-à-dire que finalement, même si tout ne sort pas uniquement d'un imaginaire, il faut aussi un moment qu'on se ramène à des règles physiques de base.
Voilà, au départ, vous avez des idées fantastiques qui vous viennent, et ensuite, vous devez travailler pour qu'elles paraissent. Pas crédible parce que forcément elles sont imaginaires, mais cohérentes et qu'elles passent au jeu du lecteur. se disent pas en, en lisant votre roman
n'importe quoi.
Je coffre ça. Pas à moi, on ne la fait pas.
Et ça, justement, c'est aussi dans, j'imagine, à la fois dans la recherche, mais c'est aussi dans l'agencement des mots, dans, dans les descriptions que vous pouvez en faire, dans, dans, et puis dans le rôle que vous donnez finalement à ces différents personnages après dans l'histoire.
Voilà, je pense que la clé, c'est le personnage. C'est les personnages qui vous entraînent dans une histoire, qui essaient, je vous touche, enfin, si ça marche en tout cas, et qui sont capables de vous entraîner dans un monde qui n'est pas le vôtre. Et vous avez envie de découvrir ce monde parce que ces personnages vous intéressent et vous êtes avec eux et vous les aimez. Et à travers leurs yeux, vous avez envie de savoir dans quel monde lui, il vous comprend de tout.
PJ Moreau, en écoutant Silène, il y a quelque chose qui m'est revenu concernant un nouveau roman, Quand il meurt, c'est que le bonheur. Il y a un moment où ils sont perdus sur une île, je crois, si je me souviens bien, et ils pêchent d'énormes scorpions de mer. Finalement, rappelle un peu au bout, en tout cas, un des
participants,
la langouste. Voilà.
Si je peux pas te faire plaisir, je vais donner langouste, pas de conserver des planètes.
Alors moi,
je
cherche l'adresse parce que vu la taille de vos langoustes, ça m'intéresse aussi. Oui. Vous
ne prenez pas plus mort, c'est pas assez bien. Il faut pas avoir le lecteur, quoi. C'est ce que je peux sentir en entendant les deux côtés de la radio. Mais il ne faut surtout pas pour toi. Il marchera pour vous marcher. Si vous avez une télé, c'est une belle quelconque, grâce à des têtes par la mer, il faut lire, mais alors, le rappel du livre, après, je veux dire que ce soit traductible, que si ce grand est pour vous avez aidé le livre que je vois, je me rappelle de la blague. Il est photographe, j'étais persuadé que la langouste c'était la fenêtre de l'autre. D'abord, quand je pense au bar, la langouste, ça m'a fait tout le temps. Le côté, le côté lecteur doit toujours rester dans la bouteille. Quand on raconte quelque chose, il faut que ce soit avec des mots que le lecteur va comprendre. Et si on décrit un monde particulier, pour que ce monde soit tous les versants visibles.
Voilà, au-delà de la boutade, dans la situation où ils sont, c'est-à-dire en fuite, abandonnés par leur propre camp, mais poursuivis par le camp ennemi, il faut bien un moment qu'ils se nourrissent. Donc voilà, il faut trouver là une manière de les faire se ravitailler.
Oui, c'est toujours, on dirait toujours comparable à ce qu'on pourrait se faire dans une période de guerre. Et je sais que on va pas tout le temps. Je sais que bon, il faut qu'on ait tout le temps. Donc, là, j'ai tous mes personnages, je les fais titubés de fatigue et je les fais se reposer. Je les fais bouffer. Je les fais voir. Il fait vachement chaud. Au crève le soir, quand on trouve un petit poteau, n'importe quoi, et que l'eau est fraîche. Qu'est-ce que c'est pas ben, si vous ne pouvez pas le faire comprendre à vos lecteurs au travers de ce que vos personnages endurent, c'est que vous laissez tenter et vous faites autre chose.
Et concernant les comportements humains que vous exposiez tout à l'heure, la locule, ça ne change pas finalement. Il y a des militaires sur le terrain qui sont la chair à canon, les sacrifices. Et puis finalement, en coulisses, il y a les politiques, les diplomates qui jouent avec des êtres humains comme avec des pions d'un jeu d'échecs.
Je n'aime pas les politiciens. Je n'aime pas les politiciens, les Américains, en fait.
Ça se sent un peu les politiciens. Ça se sent un peu les politiciens.
Oui, les Américains aussi, d'ailleurs. J'ai pas mal d'anglais, j'ai pas mal de bouquins dans lesquels je fais des initiatives pour les Américains. Les Américains sont, savent par exemple, qu'on a envoyé cinq expéditions au moment de la guerre de l'indépendance, et que sans nous, ils n'existeraient pas. Bon, sans nous, notamment, on aurait tous des fous d'abord. Donc, je pense.
Oui, sur justement là aussi, le lien que vous faisiez tout à l'heure entre les hommes sous Platon, les hommes aujourd'hui et les hommes dans quelques siècles ou millénaires, là finalement, là aussi, dans ce livre où il y a des hommes, en tout cas des personnages qui prennent des décisions qui finalement sont beaucoup plus préjudiciables à d'autres qu'à eux-mêmes.
Oui, c'est la caste politicienne ne sort pas les deux. eu l'occasion, quand j'étais dans la presse, d'interviewer le secrétaire d'État ou des ministres, et j'en garde un souvenir le plus bizarre que je connaisse. Ce sont les individus les plus étonnants. Je ne peux pas m'empêcher de voir la même chose aujourd'hui, en les voyant parler, en disant ce qu'ils veulent dire. Je trouve un signe dans le visage. Donc, pourtant le pire, ça au moins quelque chose. Si je peux être assez convaincant pour dire que les hommes politiques de notre époque ne se préoccupent pas de l'espèce humaine, mais de leur pouvoir personnel, ça éclairera peut-être un certain nombre de gens. Dans un cas, vous savez, vous avez écrit sur le secrétaire de Père. J'avais écrit qu'il a eu lieu une utilisation et il crée pour le compte de la tenue dans laquelle il n'est pas ajouté, et il crée l'écriture. Et je dis au fond, qu'est-ce qui m'a fait suivre quand je me demande c'est K-U-C, quand est-ce que vous pensez que ce sont mes cas, P-H-U-F, j'ai entièrement, ça m'a bien aidé. Et je me suis dit que ça aiderait bien, effectivement, des mots.